Vous qui êtes présents pour ce temps de culte, dans ce temple, ou par l'intermédiaire des réseaux sociaux, écoutez ce qui vous attend, ce qui vous arrive, la bonne nouvelle qui saisit, qui surprend, qui émerveille. À chacun et à tous, la grâce et la paix sont données avec la joie et la confiance, avec le courage et l'énergie de la part du Dieu créateur, aujourd'hui, chaque jour et pour toujours. Bienvenue à chacun de vous, dans la communion de l'Esprit, élan de vie et d'amour du Père pour nous. Rassemblons-nous aussi dans la prière. Notre Père, que ton Esprit nous surprenne et nous saisisse, qu'il nous oriente et nous entraîne, qu'il nous habite et nous décide. Par lui et par ta parole, nous mettons des mots sur nos vies, sur notre monde, et nous voulons aussi poser des actes sur nos mots, encouragés par toi, qui soutient le monde et nos existences. Amen. Nous nous levons pour chanter le premier des spontanés du culte. Nous restons debout pour la louange. Quel bonheur pour nous, Éternel, de connaître ton nom et pouvoir le prononcer comme un cri d'espérance, comme un souffle de vie, comme une présence, comme une joie dans la nuit. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous pour écrire une loi de liberté, pour conduire vers la terre de promesses et nouer une alliance sans fin. Dieu avec nous pour aimer jusqu'au bout et pour s'offrir par amour et pour la vie. Dieu avec nous qui inspire en l'Esprit Saint une création nouvelle qui fait germer la parole et changer les cœurs afin que chaque être humain comprenne sa propre dignité. Quel bonheur pour nous! Loué sois-tu. Amen. Et je vous invite à poursuivre la louange avec le chant du psaume 8. Et dans le psaume 8, alors j'avais oublié de l'indiquer, mais nous chanterons les strophes 1, 2, 3, 4 et 6. 1, 2, 3, 4 et 6.
Thank you.
Prenez place. Nous écoutons la volonté de Dieu pour nos vies avec ces quelques versets du psaume 1 que Serge va nous dire.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Amen.
Nous nous recueillons chacun et ensemble dans la prière de confession en nous présentant à l'Éternel tel que nous sommes. C'est Idelette qui va nous conduire dans la prière.
Éternel, mon Dieu, devant toi, je perçois que l'écho de ma vie ne sonne pas toujours juste. Il n'est parfois que bruit et cacophonie, chaque moment et chaque pensée jouant une partition isolée. Les dissonances naissent des tentations de pouvoir, d'avoir, de domination, à chaque fois que je cède sans même le vouloir vraiment. Je suis tentée de forcer le ton, mais mon jeu en devient plus faux. Je sais aussi me réfugier dans le silence, assourdi par les échecs, étouffant la souffrance. Éternel, mon Dieu, n'apporteras-tu pas un peu de justesse, un peu de justice, pour que ma vie sonne juste ? C'est dans ta grâce que ma vie sera harmonisée, qu'elle résonnera pleinement. Je t'en prie, viens à mon secours. Amen.
Amis, frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour entendre la parole de grâce de la part de l'Éternel. L'Éternel qui connaît et aime chacun de nous, et chacun est infiniment précieux. Il nous donne ce qu'il a de plus beau et de meilleur pour chacun de nous. Son esprit qui souffle et nous porte dans la vie. son Christ qui nous fait déjà entrer dans l'éternité, son pardon qui nous libère de la peur et de l'oppression, sa bénédiction pour soutenir chacun de nos jours. Oui, à chacun de nous, l'Éternel dit « Va, vis avec tes frères, avec tes sœurs, et moi, je suis avec vous tous. » Amen. Et nous chanterons au cantique numéro 288 « Toujours tu es présent, Seigneur », nous le chantons en entier. Est-ce que chacun a une des grandes feuilles qui était disponible à l'entrée du temple pour pouvoir suivre la lecture du jour? Ou est-ce qu'il en manque? Bon, voilà, on peut partager, il y en a toujours. Merci. Mais avant de lire ce texte des Écritures, nous prions. Notre Père, rends-nous capables d'accueillir ta parole dans le creuset de nos désirs et dans le secret de nos esprits, afin qu'elle agisse à l'intérieur de nous-mêmes et qu'elle nous permette d'imaginer et de réaliser des actes et de prononcer des paroles selon Jésus le Christ. Amen. Nous allons lire ce matin le deuxième volet du triptyque constitué par les chapitres 25, 26 et 27 du premier livre de Samuel. Ces trois chapitres, dont nous lirons le dernier dimanche prochain, se situent dans le récit biblique un peu avant la mort du roi Saül. Saül n'est plus le roi choisi par l'Éternel, qui a fait oindre David comme roi par le prophète Samuel. Cependant, Saül règne toujours et il est rempli de jalousie contre David, qu'il cherche à capturer et à faire périr. David lui a échappé et 600 hommes se sont ralliés à lui, soit partisans de sa cause, soit mécontents de leur sort sous le roi Saül ou sous leur maître. Au chapitre 24, que nous avons lu dimanche dernier, la première partie du triptyque, nous avons vu que David, réfugié dans une grotte avec ses hommes, les a empêchés de tuer Saül. Puis il a assuré le roi de sa fidélité, de son respect, il ne le tuera pas. Saül, à ce moment-là, a regretté sa violence et a même reconnu que David sera roi après lui et un meilleur roi que lui. Et puis les deux hommes se sont séparés. Et nous en arrivons donc au chapitre 25, un long texte, ce pourquoi vous l'avez aussi sous les yeux. Samuel mourut. Tout Israël se rassembla pour se lamenter sur lui, et on l'ensevelit chez lui à Rama. C'est alors que David descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme qui avait ses activités à Carmel. C'était un homme très important. Il avait 3000 moutons et 1000 chèvres. Or, il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses moutons. Le nom de cet homme était Nabal, et le nom de sa femme était Abigail. C'était une femme de bon sens et fort belle. Mais l'homme était dur et mauvais dans ses agissements. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses moutons. Il envoya 10 de ses gens auxquels il dit « Montez à Carmel, vous irez chez Nabal et en mon nom vous lui demanderez comment il va. Vous lui direz « Pour la vie, que tout aille bien pour toi, pour ta maison et pour tout ce qui t'appartient. À présent, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne les avons pas inquiétés. » Et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes gens, ils te le diront. Que mes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons un jour de fête. Donne-nous donc, je te prie, pour nous qui sommes tes serviteurs et pour David ton fils, ce que tu as sous la main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils parlèrent exactement ainsi à Nabal au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit au serviteur de David, « Qui est David ? Et qui est le fils de Jessé ? Il y a aujourd'hui beaucoup d'esclaves qui s'enfuient de chez leur maître. Je prendrai mon pain, mon eau et la viande que j'ai préparée pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens dont je ne sais même pas le nom. Même pas d'où ils sont. » Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils revinrent et à leur arrivée, ils lui dirent tout. Alors David dit à ses hommes, « Que chacun de vous mette son épée à la ceinture. » Ils mirent chacun son épée à la ceinture. David aussi mit son épée à la ceinture et environ 400 hommes partirent à l'attaque derrière lui. Il en resta 200 près du matériel. Un des serviteurs de Nabal dit à Abigail, la femme de Nabal, « David a envoyé du désert des messagers pour bénir notre maître qui les a rudoyés. » Et pourtant, ces hommes ont été très bons pour nous. Nous n'avons pas été inquiétés, et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons fait route avec eux lorsque nous étions dans la campagne. Ils nous ont servi de muraille, nuit et jour, tout le temps que nous avons été avec eux pour faire paître le petit bétail. À toi maintenant de bien voir ce que tu as à faire, car le malheur de notre maître et de toute sa maison est résolu. Quant à lui, c'est un homme sans morale, impossible de lui parler. » Abigail prit vite 200 pains, 2 outres de vin, 5 moutons apprêtés, 5 séas de grains rôtis, 100 gâteaux de raisins secs et 200 gâteaux de figues sèches qu'elle mit sur des ânes. Elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vous suis. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendait par un versant de la montagne. David et ses hommes descendaient en face d'elle, de sorte qu'ils la rencontrèrent. David avait dit, « C'est bien à tort que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu fasse ceci à David et qu'il ajoute cela, si je laisse subsister jusqu'au matin un seul mal de tous ceux qui appartiennent à Nabal. » Lorsque Abigail aperçut David, elle s'empressa de descendre de l'âne. Puis elle tomba face contre terre, prosternée devant David. Tombant à ses pieds, elle lui dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Laisse-moi te parler, je t'en prie, écoute mes paroles, je suis ta servante. Je t'en prie, ne fais pas attention à Nabal, c'est un homme sans morale, il est comme son nom. Son nom c'est Nabal, c'est-à-dire fou, et il y a chez lui de la folie. Moi je n'ai pas vu les gens que tu as envoyés. Maintenant, par la vie de l'Éternel et par ta propre vie, c'est l'Éternel qui t'a empêché de verser le sang et d'assurer toi-même ton propre salut. Que tes ennemis, que ceux qui cherchent à te faire du mal soient comme Nabal. Maintenant, que le cadeau que je t'apporte soit distribué aux gens qui t'accompagnent. Pardonne ma faute, je te prie. L'Éternel t'accordera une maison stable puisque tu mènes les guerres de l'Éternel. Qu'on ne trouve donc jamais rien de mauvais en toi. Si un homme te poursuit et en veut à ta vie sera gardée précieusement auprès de l'Éternel, ton Dieu. Mais tes ennemis, il les lancera au loin du creux de la fronde. Lorsque l'Éternel t'aura fait tout le bien qu'il t'a promis et qu'il t'aura institué chef sur Israël, tu ne risqueras pas de chanceler ou de trébucher dans ton cœur pour avoir sans raison répandu du sang et pour avoir voulu assurer toi-même ton salut. Lorsque le Seigneur t'aura fait du bien, tu te souviendras de moi. David dit à Abigaïl, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé à ma rencontre en ce jour. Béni soit ton discernement et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de verser le sang et d'assurer moi-même mon propre salut. Par la vie de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, si tu n'étais pas venu si vite à ma rencontre, d'ici à l'aube, il ne serait pas resté un seul des mâles de Nabal. » David prit ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, « Monte chez toi en paix. Regarde, je t'ai écouté et je t'ai accueilli favorablement. » Abigaïl arriva auprès de Nabal. Il y avait chez lui un véritable banquet royal. Nabal avait le cœur content, il était complètement ivre. Elle ne lui raconta rien jusqu'à l'aube. Au matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Il reçut un coup au cœur et il devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et dit « Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'avait fait Nabal et qui m'a tenu à l'écart du mal. L'Éternel a fait retomber sur la tête de Nabal le mal qu'il avait fait. » Et David fit demander Abigaïl en mariage. Les gens de David arrivèrent chez Abigaïl à Carmel et lui parlèrent ainsi. « David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour femme. » Elle se leva, se prosterna face contre terre et dit « Je suis ta servante. Je serai une esclave pour laver les pieds de tes serviteurs, mon Seigneur. » Abigaïl s'empressa de se relever. Elle monta sur un âne. Et accompagnée de 5 jeunes filles, elle suivit les messagers de David. Et ainsi, elle devint sa femme. David avait aussi pris Ahinoam de Jizréel. Toutes les deux furent ses femmes. Quant à Saül, il avait donné sa fille Michal, femme de David, à Palti de Galim, fils de Laïch. Je propose de suivre ce très long texte avec les prises de parole des différents intervenants pour comprendre ce qui se joue dans le récit, mais aussi de quelle manière nous sommes informés, avisés, peut-être rendus sages par ce que le texte révèle de ce qui travaille les humains dans les profondeurs humaines et dans les relations. Donc David et puis Nabal. À nouveau David, Abigaïl grâce aux serviteurs de Nabal et David pour terminer. Donc le premier à parler, c'est David. David qui souhaite profiter de la fête de la tonte des moutons pour obtenir pour lui et ses hommes quelques provisions de la part de Nabal, un riche propriétaire local. Si David attend ainsi de Nabal qu'il fasse profiter sa troupe des largesses de la fête, c'est en quelque sorte en rétribution de la sauvegarde des bergers et des troupeaux de Nabal. David et ses hommes, 600, sans terre et sans argent, n'ont pas profité de leurs armes pour voler les biens de Nabal ou pour molester ses gens. C'est quand même une curieuse manière de formuler la demande de chercher rétribution pour le mal qu'on n'a pas fait, même s'il y a eu aussi un service rendu. Et si l'on ajoute à cela que David ne se déplace pas en personne, mais qu'il envoie 10 de ses hommes pour porter ce message à Nabal, nous pouvons légitimement nous demander dans quel registre de relations David se situe. L'envoi de 10 hommes pour porter un seul message amplifie considérablement ce dernier et lui donne un écho presque assourdissant. Ce n'est pas la même chose d'envoyer un porte-parole dont la voix relaie celle de celui qui l'a envoyé que d'envoyer 10 hommes pour diffracter une voix qui en devient dominante, largement supérieure à la voix de celui qui reçoit le message. David instaure un rapport de force, également sensible par ces mots dans lesquels plane une menace. Jusqu'à présent, nous n'avons rien fait, mais la troupe de David pourrait bien s'en prendre au berger et au troupeau de Nabal si celui-ci ne satisfait pas la demande. Alors bien sûr, l'auteur a précisé que Nabal est un homme dur et méchant. Et comment faire avec de tels hommes ? Quels autres arguments que la force pourraient le convaincre de donner de quoi boire et manger à une troupe de 600 hommes ? Cependant, le chapitre 25 suivant le chapitre 24, nous nous souvenons des questions posées dimanche dernier. Par exemple, si la justice et la violence peuvent cohabiter ? Si un rapport de force est apte à créer les conditions d'une vie commune ? Si un roi, car David est déjà oint, donc il sera un jour le roi régnant, si un roi peut user de la force et menacer des vies humaines pour son intérêt, pour se préserver. Autant de questions qui valent aussi pour la vie ordinaire de celles et ceux qui ne sont ni reines ni rois. Et nous nous souvenons que la préservation de la vie d'autrui et le respect, seuls, permettent que l'histoire se poursuive, que l'avenir soit encore ouvert. David, qui est dans le besoin de nourrir ses hommes, même quand ce n'est pas un jour de fête d'ailleurs, est-il tellement contrarié d'avoir à demander de l'aide qu'il le fasse d'une manière tellement provocatrice et même querelleuse ? S'il tâche de présenter un équilibre où le bien entre ce que ces hommes ont fait devrait être payé du bien que Nabal peut faire, cet équilibre de réciprocité et de rétribution génère inévitablement des relations de compte, de mesure et de dette, donc de suspicion et de menace, donc de dispute et de conflit. Mais qui nous doit l'aide dont nous avons besoin ? Comment supportons-nous d'avoir besoin d'aide ? Et dans quoi nos demandes d'aide sont-elles enveloppées ? Et enfin, quel droit aurions-nous sur ceux que nous avons aidés ? Rien d'étonnant finalement à ce que Nabal réagisse défavorablement. Même sans être dur et méchant, bien d'autres que lui auraient pris la mouche de se trouver ainsi embarqués dans un tel règlement de compte. Il faudrait une véritable capacité à prendre du recul, certainement aussi une bonne dose d'humour, pour ne pas se mettre en colère devant une telle prétention. Ou alors, il faudrait cette disposition intérieure à la gratitude pour accepter de répondre à un service rendu, même en négatif. Cette gratitude qui, de toute manière et en tout temps, rend généreux, hospitalier, accueillant, compatissant, partageur des fêtes. La gratitude qui, fondamentalement, ne s'articule pas au service rendu, mais à la vie, au fait d'être vivant et à la conviction qu'être vivant relève d'un don et non d'un dû. Nabal, lui, n'éprouve aucune gratitude, aucune reconnaissance. Nabal parle depuis sa dureté de cœur, depuis sa méchanceté, depuis aussi les richesses qui sont les siennes. Hein. Bien à lui, c'est mon pain, c'est mon eau, ce sont mes tondeurs. Nabal est l'homme du moi, l'homme du à moi, l'homme du mien. Et pour le bien, et pour lui, le bien ne va pas plus loin que cela, pas plus loin que lui. Et s'il s'enivre lors du festin de la tonte, c'est autant de son vin que de son moi, dans un banquet royal forcément, puisqu'il est le roi du monde, son petit monde au moins. Car Nabal signifie fou, insensé. Et ainsi que le chante le psaume 14, l'insensé dit « Il n'y a pas de Dieu ». L'insensé, le Nabal, quel que soit son nom, parle et vit comme si Dieu n'était pas, comme s'il n'y avait pas de Dieu. Et au-delà de la question de la foi ou de l'absence de foi, il vit comme si rien ne pouvait le questionner, l'interpeller, le transformer, comme s'il n'avait pas de conscience ni de ses limites, ni de l'existence d'autrui. Mais Nabal, dans le récit, ne se contente pas de refuser, il le fait en termes injurieux et méprisants envers David, multipliant l'agression qu'il a ressentie dans le message transmis par les 10 hommes. Qui est le fils de Jessé ? L'homme qui fuit devant le roi Saül ne vaut rien. Ces gens ne sont personne. Eh bien, ce n'est pas rien de considérer quelqu'un comme n'étant personne, c'est-à-dire de le déconsidérer, de le rejeter d'un regard ou d'une parole au-delà du rebord du monde, sans se préoccuper de ce qui fait ou défait une existence. La considération, cette manière de regarder avec attention, c'est aussi, ainsi que l'écrit l'essayiste Marielle Massé dans un très court mais remarquable ouvrage qui s'appelle « Sidérer, considérer », elle écrit que la considération, c'est une perception qui prend soin de l'autre, déjà. Mais rien de tel de la part de Nabal, seulement mépris et humiliation. Et c'est insupportable. Et cela génère désespoir ou colère. Et pour David, c'est la colère. Il organise une expédition punitive contre Nabal avec l'intention de ne laisser aucun mâle vivant. Laver l'honneur, venger l'affront, punir l'offense, éliminer. Rien que de très connu, hélas. Toujours. Un déchaînement de violence parce que la violence intérieure ne demande toujours que cela, d'être libéré, de s'extérioriser. Et David n'hésite même pas à mêler Dieu à cela. Rien que de très courant, hélas, une fois de plus. En se faisant lui-même le serment solennel de tuer tous les hommes de la maison de Nabal. Agression sur agression, la violence sature ce qu'il y a entre Nabal et David, sans qu'il n'y ait ni en l'un ni en l'autre la possibilité de bifurquer sur une voie plus modérée, la possibilité de se tenir dans un échange de paroles, mieux encore, un échange de paroles juste. Si l'onction de Saül avait empêché David de le tuer au chapitre précédent, rien ne le retient vis-à-vis de Nabal. La logique de la rétribution et de la dette, logique tellement humaine, est une logique mortifère. Nous le voyons à chaque époque, en tout lieu, en tout groupe humain. Chaque fois qu'un être humain est déçu dans son attente de la récompense qu'il pense mériter, chaque fois qu'un être humain est déconsidéré, méprisé, humilié, que la reconnaissance lui est refusée, Il y en a partout autour de nous. Cela ne se termine pas toujours dans le sang, mais toujours avec une rancœur, un ressentiment, une colère qui ronge le cœur et l'âme. Et c'est bien pourquoi la Bible hébraïque, et le Nouveau Testament également, ne cessent de démonter les mécanismes de violence pour pouvoir ouvrir la voie à autre chose, à la justice, à la reconnaissance, à l'amour. Heureusement pour David et pour Nabal, un des serviteurs de Nabal explique la situation à Abigail, l'épouse si belle et si pleine de bon sens de Nabal. Un serviteur qui connaît son maître et qui explique à Abigail que oui, les hommes de David les ont effectivement protégés et que la situation s'est dangereusement envenimée. Et sur la parole de ce serviteur anonyme, mais qui a pris la responsabilité de parler, d'expliquer, qui a fait ce qu'il a pu pour éviter le massacre, Abigail agit. Et elle agit délibérément, avec courage et même audace, et avec générosité. Abigail, elle, considère David. Elle fait attention à lui. Elle prend soin de lui, et pas seulement avec du pain, du vin, des gâteaux de figues et des moutons. Elle le fait aussi par ses gestes, mais surtout par ses paroles. À moi la faute. C'est étrange, n'est-ce pas, quelqu'un qui endosse une faute qu'il n'a pas commise. Cela n'arrive pas fréquemment. Mais c'est pour Abigail le moyen d'aider David à prendre du recul, à changer de point de vue, à neutraliser sa colère, à dépasser son agressivité envers Nabal. D'ailleurs, Nabal est fou, elle le reconnaît, n'est-ce pas ? Alors que là, Abigail, elle, se tient devant David et tous les deux vont pouvoir se parler comme deux personnes responsables. Abigail ne se préoccupe ni de son amour-propre, ni de son quant à soi. À moi la faute, elle qui n'a rien fait. Mais elle se préoccupe de donner à David de quoi rompre avec la logique de mort dans laquelle il est entraîné. Elle reconnaît le tort de Nabal et l'innocence de David. Elle ne l'accuse même pas d'avoir été injuste ou seulement excessif. Puis elle rappelle à David le passé, ce que l'Éternel a déjà fait pour lui, et elle le tourne vers l'avenir que la fidélité de l'Éternel engage. Elle exhorte David à ne pas se faire l'arbitre du conflit dans lequel il est engagé, mais à remettre à Dieu tout jugement. Alors que David ne voit que son amour-propre piétiné par l'agressivité de Nabal, Abigail complexifie pour lui la situation. Elle l'incite à voir le choix qui lui est posé. Soit David persiste dans sa vengeance et avoue ainsi qu'il est plus préoccupé par le souci de vaincre l'autre que par le souci de la justice, et ce serait malvenu pour un futur roi régnant. Soit il revient de sa colère, et cela sans perdre la face, puisque la faute de Nabal est reconnue. Abigail fait comprendre à David que l'estime de soi n'est pas rétablie par la vengeance, mais par un don surabondant, qui s'appelle le pardon. Ce que fait Abigail, c'est de susciter en David le meilleur de lui-même, en faisant appel à sa vocation de roi, qui est aussi la vocation de tout humain, et que les Écritures ne cessent de rappeler. Il est possible de ne pas se venger. Il est possible de ne pas se laisser aller à la violence. Et cette possibilité, c'est un véritable pouvoir. Un pouvoir pour la vie, pour les relations, pour l'avenir. Le pouvoir de limiter notre force, notre puissance, le pouvoir de convertir l'usage de la force en énergie pour la justice, pour notre vocation d'humain à l'image de Dieu. Alors que Nabal a choisi l'humiliation, alors que David a choisi la violence, Abigail choisit la reconnaissance. et la réparation. C'est bien pourquoi David reconnaît dans sa réponse que c'est l'Éternel qui a agi à travers Abigaïl, qu'elle a été pour lui le témoin de la fidélité divine qui ne s'impose pas, mais qui insiste à travers justement ces témoins pour la vie et pour la paix, qui aident ceux qui sont enfermés dans les spirales de la destruction à en sortir par des paroles et des actes justes, des témoins désintéressés du souci d'eux-mêmes. Oui, Dieu passe par Abigaïl pour toucher David. Et la liberté des humains est aussi bien un passage pour Dieu qu'un obstacle à son œuvre. Mais tous ces témoins qui relaient l'appel divin à la justice et à la paix témoignent de l'insistance de Dieu, comme de son impuissance à obliger qui que ce soit ou à imposer la justice. Nous ne sommes pas des pions dans la main de Dieu, un Dieu tout-puissant. Mais nous pouvons fort bien, en revanche, être les pions de nos propres réactions et du mal qui ronge le cœur. Toute une récalcitrance à la parole de vie, une récalcitrance qui creuse encore nos précarités. Et cependant, cette précarité est le lieu de Dieu en l'humain. Là où nos blessures, nos manques et nos peines virent à l'agressivité, là où nos certitudes nous aveuglent, là où nos richesses, quelles qu'elles soient, nourrissent surtout notre orgueil, là où la peur imprègne et pétrifie la conscience, là où nous pensons ne pas avoir de choix. Se laisser recueillir par la figure de David et par celle d'Abigaïl permet de faire face à nos propres réactions et de nous souvenir de celles et ceux qui nous ont aidés à dépasser ces penchants destructeurs et d'imaginer pour nous un cheminement semblable qui réponde et corresponde à l'appel à la justice qui bien veille, pardonnez-moi ce mot qui n'existe pas, qui bien veille sur les vivants. Et c'est ainsi que nous vivons, en chercheurs de Dieu et de justice, en chercheurs d'humanité et de pardon, en chercheurs de vie et de communion, ce qui est encore autre chose que de vivre ensemble. La sagesse d'Abigaïl, la sagesse des femmes et des hommes qui considèrent autrui et agissent ainsi en artisans de paix, heureuses sont-elles, heureux sont-ils? Leur sagesse est de reconnaître les pièges mortels de la violence, même lorsqu'elle se dissimule sous divers prétextes, et simplement le prétexte ou la prétention d'avoir raison. La sagesse, c'est d'écouter autrui, comme de ne jamais le priver de parole. Et c'est de ne pas croire qu'on pourrait tout seul faire barrage à la violence, même la sienne propre. C'est d'apprécier la réalité par rapport à la vocation de l'humain et à la divine lumière qui brille dans l'obscurité. « Remonte en paix, dit David, à la femme sage qui l'a rendue un peu plus sage et qui lui a évité de se perdre. » Si le livre des Proverbes est attribué à Salomon, fils de David, David lui-même aurait pu ainsi enseigner son fils avec ce proverbe au chapitre 24. « Mon fils, mange du miel, c'est bon. Le rayon de miel est doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour toi-même. » Si tu la trouves, tu auras un avenir et ton espoir ne sera pas retranché. Amen. Je vous invite à vous lever et à vous associer à cette confession de foi qui est une confession de foi écrite par la pasteur Béatrice Cléromazir, notre amie de l'oratoire. Je crois en Dieu qui rejoint l'humain dans les plis de sa vie, qui se fait connaître de lui par une présence aimante. Je crois en un Dieu qui ne comble aucun vide, mais qui vient habiter avec moi les vides de ma vie. Je crois au Christ, humain comme nous et fidèle au-delà de nous. Je crois au Fils de Dieu qui m'aide à devenir enfant de Dieu. Je crois à l'Esprit d'adoption qui me donne Dieu pour Père et les humains comme frères et sœurs. Je crois en l'Esprit de Dieu qui anime notre foi et nous révèle le règne de Dieu. Je crois en Dieu qui rejoint l'humain dans les plis de sa vie. Amen. Il y a beaucoup d'annonces à partager ce matin, en ce début septembre, qui marque la reprise de beaucoup d'activités. Aujourd'hui, vous le savez peut-être, c'est l'Assemblée du désert, le grand rassemblement protestant au Mas Béran, dans les Cévennes, une célébration annuelle du culte et suivie d'une journée d'entretien et de conférences. Le culte, le thème de cette assemblée cette année, c'est la Saint-Barthélemy. Et le culte qui est assuré en ce moment par le pasteur Christian Bacué, pasteur à la paroisse de Pantemont-Luxembourg, vous pourrez le réécouter sur France Culture ou lire plus tard sur le site de l'Assemblée du désert, du musée du désert. Aujourd'hui également, comme chaque dimanche où il y a un culte, c'est la collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement. Je les ai contactés cette semaine et donc une nouvelle liste de produits dont ils ont particulièrement besoin en ce moment est affichée dans l'entrée du temple. Mais vous pouvez bien sûr apporter d'autres produits, sachant qu'il faut que ce soit des produits non périssables et pas de produits en vrac. Voilà, ce sont des contraintes qui ne tiennent pas à nous. Donc merci de votre soutien à cette action de solidarité. L'amitié, le bulletin du foyer de l'âme du mois de septembre est arrivé, je pense, soit dans vos boîtes aux lettres, soit dans vos boîtes mail. Si vous ne l'avez pas, il y en a quelques exemplaires disponibles au fond du temple. Et si vous souhaitez le recevoir régulièrement, il vous suffit de me le signaler à la sortie ou de m'envoyer un message pour m'indiquer que vous voulez le recevoir. Je voulais aussi vous signaler le numéro de septembre également de Parole protestante, qui est le magazine protestant, enfin de l'Église protestante unie en région parisienne, et dans lequel il y a un dossier concernant le COE, autrement dit le Comité œcuménique des Églises, et son œuvre de paix sur différents continents. Donc je vous invite à le prendre. Le foyer de l'âme en reçoit, enfin en achète un certain nombre tous les mois, et c'est pour vous. Dans les activités de la semaine, je voudrais signaler particulièrement, alors il y aura une réunion du bureau, ça ne concerne que les membres du bureau, mais enfin voilà, tout reprend, une réunion du bureau du conseil presbytéral mardi 6, Il y aura jeudi 8, bien sûr, à 12h30, la pause spirituelle pendant une heure dans le temple, autour de musique, de silence et d'un texte biblique sur lequel nous partageons très simplement et librement. Et puis jeudi soir, c'est la rentrée du Ciné-Club. Donc Didier, à toi la parole.
Bonjour, donc c'est la rentrée du cinéma. Je propose pour cet automne d'interrompre l'étude du christianisme au cinéma pour changer un peu les idées. Et comme nous avons voté 4 dimanches cette année et que ça ne va pas revenir avant 2 ans, je pense que nous allons être frustrés. Donc nous vous proposons un cycle sur la vie politique au cinéma. Pas le cinéma politique, le fonctionnement des institutions. La vie. Vous avez l'affichette qui donne le programme et nous commencerons donc mercredi par Monsieur Smith au Sénat. Jeudi, pardon. Oui, oui. Ah oui, c'est vrai. Cette année, c'est le jeudi. C'est pour ça. Jeudi, par Monsieur Smith au Sénat de Frank Capra avec James Stewart, qui est un film de 1939, qui est le grand classique du genre sur la satire politique. Que vous dire, c'est un film très connu, mais enfin bon. Si vous ne le connaissez pas, venez le voir. Monsieur Smith au Sénat, le titre l'indique, c'est quelqu'un qui n'est pas professionnel de la politique et qui est coopté au Sénat américain par des sénateurs un peu véreux qui espèrent qu'ils vont pouvoir le manipuler. Et évidemment, ça ne va pas le faire. Voilà. Nous reprenons après les ennuis du Covid, le rythme habituel, c'est-à-dire 19h, un encas partagé, et la projection à 19h45. Voilà. Et donc, en principe, ce sera le deuxième jeudi de chaque mois, sauf en novembre, parce que le deuxième jeudi de novembre, c'est le 10, donc la veille du week-end du 11, donc il n'y aurait eu personne, donc on fait ça un peu plus tôt.
Nous savons tout maintenant. Je dis ça aussi, je vous le signale, parce que c'est une question qui concerne l'organisation de l'Église dans la région parisienne. Il y a en région parisienne un certain nombre de paroisses sans pasteur, le poste pastoral est vacant. Il n'y a pas assez de pasteurs dans l'Église protestante unie. Et donc le conseil régional sollicite d'autres pasteurs de la région pour accompagner ces paroisses sans pasteur pendant l'année de vacances. Et donc le conseil régional m'a sollicité pour accompagner une paroisse, celle de Levallois-Clichy, pendant son année de vacances. Donc jeudi soir, moi, je serai au conseil presbytéral de Levallois. Et absente quelques dimanches dans l'année pour aller prêcher là-bas. Et puis voilà, c'est une manière d'être solidaire et de se soucier les uns des autres. Ensuite, dimanche prochain, le 11 septembre, il y aura bien sûr le culte à 10h30. Et donc, comme je vous l'ai dit, ce sera le chapitre 26 de ce triptyque du premier livre de Samuel, une dernière rencontre, si l'on peut dire, entre David et Saül. Mais il y a d'autres annonces concernant des événements qui vont avoir lieu dans les temps qui viennent. D'abord, en ce qui concerne le séminaire animé par le professeur Laurent Gagnebin sur des grandes figures de théologiens protestants. Donc, vous avez les renseignements dans le bulletin du mois de septembre, donc 2 jeudis par mois en septembre, octobre, novembre et décembre. Pour recevoir le lien Zoom, puisque ce séminaire a lieu exclusivement par Zoom, pour recevoir le lien Zoom, il faut me prévenir. Donc, si vous êtes intéressé par ce séminaire, envoyez-moi un mail en me disant je suis intéressé par le séminaire. Et à chaque fois, chaque jeudi, je vous enverrai le lien qui vous permettra de vous joindre et un petit texte que Laurent Gagnebin a choisi, un texte du théologien en question et qui permettra de donner un point d'appui à son intervention et à la discussion. Donc voilà, il faut me prévenir. Alors, une fois pour toutes, ne m'envoyez pas un mail 2 fois par mois, Moi, je vous l'enverrai à chaque fois après. Envoyez-moi un mail pour me dire que vous êtes intéressé par ce séminaire. Et c'est de cette manière-là, d'ailleurs, que vous soyez ici ou que vous soyez loin, c'est l'avantage de Zoom. On peut suivre ce séminaire de Suisse, du sud de la France ou même d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à me demander le lien. Il y aura aussi le dimanche 18 septembre le culte de rentrée, de reprise du foyer de l'âme. Et ce sera un culte tout à fait festif, puisque non seulement nous accueillons les enfants de l'école biblique et du précaté, mais nous aurons aussi l'occasion et la joie d'entourer trois jeunes de l'année de catéchisme de l'an passé qui feront leur confirmation ce dimanche 18. Alexandre, Suzanne et Églantine. Donc vous avez pu les voir tout au long de l'année dernière lorsqu'ils venaient animer les cultes avec moi. Et donc deux ont fait leur confirmation à Pentecôte et les trois autres la feront ce dimanche 18 septembre. Donc voilà, et ce sera également, puisque c'est le culte de rentrée, un culte avec partage de la scène. Donc voilà, un grand dimanche festif. La veille, le samedi 17, le temple du foyer de l'âme sera ouvert pour les journées du patrimoine et je laisse là la parole à Hervé.
Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Dominique, effectivement, le 17 et 18 septembre, ce sont les journées européennes du patrimoine auxquelles nous avions déjà participé l'année dernière et d'autres années antérieures. Nous consacrons aux journées du patrimoine la journée du 17, puisque le 18 effectivement est un jour de culte. Le 17 cette année, le temple sera ouvert au public de 13h à 18h avec visite libre. Donc les personnes qui le souhaitent peuvent déambuler, profiter du lieu tout à fait librement, et également deux possibilités de visite commentée à 14h et 16h. Donc c'est moi-même qui assurerai le commentaire, et il y aura également une démonstration un petit peu pédagogique, je dirais, d'orgue par Frédéric à 17h30. Voilà donc pour le déroulement, que vous retrouverez aussi dans le bulletin de l'amitié. Cette année, ce sera un petit peu particulier puisque depuis le mois de mars, le foyer de l'âme est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Il y a eu un travail important de fait autour des archives par le conseil presbytéral. Donc on exposera quelques éléments qui ont été retrouvés, qui peuvent être assez amusants pour certains, assez touchants pour d'autres, autour de l'histoire de la fondation de cette paroisse. Voilà. Et puis c'est toujours intéressant de découvrir un petit peu les choses dans un lieu qu'on croit connaître et finalement où il y a encore beaucoup de choses à s'approprier. Donc déjà, effectivement, vous qui êtes présents, vous êtes naturellement les bienvenus en grand nombre avec vos familles, vos amis. Donc n'hésitez pas à venir lors de ces journées du patrimoine, enfin de cette journée. Et une petite demande complémentaire, puisque j'assurerai, donc, comme je vous l'ai dit, les visites à 14h et 16h, n'ayant pas encore tout à fait le don d'ubiquité, si une ou deux personnes voulaient bien se joindre à moi pour assurer l'accueil et éventuellement répondre aux questions, voilà, accueillir les personnes qui viendraient et qui ne souhaiteraient pas forcément se joindre à la visite guidée pendant ce temps-là, n'hésitez pas à me faire signe à la sortie du culte ou à le faire savoir par l'intermédiaire de Dominique. Voilà. Merci beaucoup.
Et enfin, une dernière annonce, enfin, en ce qui me concerne. Il y aura l'entraide du foyer de l'âme organise le dimanche 25 septembre un repas du CASP. Vous savez qu'on appelle ainsi ce repas dans lequel nous recevons des personnes démunies, en difficulté, qui sont invitées par le CASP, le Centre d'Action Sociale Protestant. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, il nous faut beaucoup de bénévoles pour assurer les tables du CASP. Il faut des bénévoles le samedi pour préparer le repas, parce qu'on offre que... pas question d'offrir des surgelés ou des plats tout préparés. Tout est fait avec des produits frais. Donc il faut préparer le samedi, mettre la table, une belle table de fête, et puis le dimanche, enfin c'est le samedi après-midi, et puis le dimanche du matin jusqu'au milieu d'après-midi, il faut aussi des équipes pour préparer, servir, faire la vaisselle, et puis aussi qu'il y ait une personne, un bénévole à table, à chaque table avec les invités du CASP. Donc si vous êtes disponible, soit le samedi, soit le dimanche, et même si c'est que le dimanche matin ou que le dimanche pendant le temps du repas, enfin, soit vous avez les coordonnées déjà de Dominique Jolle, mais vous pouvez la prévenir rapidement, ou alors vous me le dites et je lui transmettrai vos noms, parce que plus tôt on s'est organisé et moins on est stressé. Donc voilà, je lance le premier appel pour ce repas du CASP le dimanche 25 septembre prochain. C'est tout bientôt. Mais je voudrais aussi vous présenter Antonia. Antonia, si tu veux bien juste au moins t'avancer, parce qu'elle est là-haut. Devant la barrière, voilà. Antonia, c'est la nouvelle locataire du sixième étage au foyer de l'âme. Et Antonia assurera également la captation vidéo des cultes une ou deux fois par mois et puis quelques autres services comme ça. Donc, vous aurez l'occasion de la croiser régulièrement et nous lui souhaitons bienvenue au foyer de l'âme et puis aussi bon courage pour les études qu'elle commence. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles à se dire ? Eh bien, alors, c'est le temps de l'offrande. Et je vous invite à avoir ce geste libre et joyeux pour que votre offrande soit vraiment une offrande et pas une corvée. Pendant cette offrande, nous chanterons le cantique 279, « Confie à Dieu ta route ». Je vous invite à vous lever. Nous nous rassemblons dans la prière d'intercession qui sera pour ce dimanche Une réécriture, une actualisation de la prière du Notre Père. Que ton nom retentisse si fort sur notre terre que nous reconnaissions ta présence parmi nous. Que ton règne d'amour et de joie vienne vivifier tes enfants pour déloger l'angoisse, la souffrance, le péché. Que ta volonté qui s'est manifestée dans le Christ soit faite aussi à travers nos efforts de justice, de partage, de paix. Donne-nous aujourd'hui notre pain, notre part d'affection, notre part de force pour vivre et répandre la bonne nouvelle. Pardonne-nous nos offenses, comme nous essayons aussi de pardonner les offenses de ceux qui nous blessent, nous ignorent ou ne savent pas nous aimer. Ne nous soumets pas à la tentation du refus, de la passivité, de la facilité, de l'évasion ou de la violence. Mais délivre-nous du mal qui s'incruste dans notre monde et en nous-mêmes. Nous te disons tout cela avec confiance, car c'est à toi qu'appartiennent l'amour, le pardon et la paix au siècle des siècles. Amen. Veuillez vous lever pour entendre l'exhortation qui va être dite par Idelette, puis nous chanterons le dernier spontané avant la bénédiction.
Le bruit qui m'empêche d'entendre la voix de Dieu, ce n'est pas le brouhaha des humains, ni la trépidation des villes, encore moins le frémissement des vents ou le murmure des eaux. Le bruit qui étouffe la voix divine, c'est le tumulte intérieur de l'amour-propre brisé, du soupçon qui s'éveille, de l'ambition qui ne dort jamais, de la peur qui étend son emprise, de l'orgueil qui réclame sa part. Que s'ouvrent nos oreilles, notre cœur, notre esprit à sa voix vivifiante.
Amis, frères et sœurs, que votre cœur repose en l'immense amour du Père, que sa face lumineuse éclaire le dedans et le dehors de votre vie, que les saisons, les années et les heures ne puissent s'écouler sans que s'élargisse votre reconnaissance, et que votre âme est toujours de Dieu la soif et l'humble garde de tendresse. Amen.